Les monuments religieux de Toulouse. Jean-Claude Jaffé.
Reprenons, si vous le voulez bien dans cette chronique, l'historique de cette étonnante et déconcertante cathédrale Saint-Étienne. À l'origine, c'est une petite église romane qui tombe en ruine, insuffisante pour l'évêque Isarne, qui vers 1078 veut élever une cathédrale, projet qui sera finalement réalisé par Raymond VI, comte de Toulouse. La large nef actuelle lui rend hommage, puisqu'on l'appelle communément la nef raymondine. 50 ans plus tard, à peine, l'évêque Bertrand de l'île Jourdain décide à son tour la construction d'une nouvelle cathédrale, inspirée plutôt de l'art gothique du Nord. Il a l'ambition d'une église grandiose et fait appel à Jean Deschamps, qui a été le maître d'œuvre de la cathédrale de Narbonne. On commence par raser le chevet de l'ancien édifice avant d'entreprendre un immense chœur. On l'appelle le chœur des chanoines, aux dimensions doubles du précédent. Le résultat donne la juxtaposition de deux cultures différentes. En fait, l'ancien édifice aurait dû être rasé, mais les difficultés financières n'ont pas permis de mener à bien la fin du projet, de telle sorte qu'il a bien fallu s'accommoder d'une telle architecture, malgré les velléités de plusieurs évêques au cours du XVIe et XVIIe siècle, qui essayèrent d'achever la cathédrale, mais durent abandonner faute de moyens. Il faut dire que le diocèse de Toulouse avait une autorité territoriale immense et qu'il perdit non seulement Pamiers sous Boniface VIII, mais aussi par décision papale de Jean XXII, Condom, Montauban, Saint-Papoul, Lombès, Lavaur et Mirepoix, ce qui réduisit de près de 80% les ressources financières du chapitre. Le chœur fut donc recouvert d'une charpente provisoire qui fut la proie des flammes le 9 décembre 1609 et entièrement détruit, ainsi que le mobilier et les orgues qui fondirent. La voûte, hâtivement reconstruite, n'atteint que 28 mètres de hauteur au lieu des 40 prévus. Dès lors, on apporta au cours des ans quelques améliorations, mais qui n'affectèrent en rien le plan architectural. On doit à l'archevêque Denis Dumoulin, en 1447, le portail de la façade occidentale, visiblement désaxé sur la droite. On doit au cardinal Jean d'Orléans l'élévation de l'énorme clocher donjon de 55 mètres et la pose d'un pilier, en fait, quatre piliers avaient été prévus, mais un seul fut édifié, gigantesque, qui porte d'ailleurs son nom. Ce clocher, qualifié aussi de forteresse, a permis à la cathédrale de ne pas subir de gros dommages lors des troubles de la Réforme, puisque le cardinal de Joyeuse y installa des soldats qui la protégèrent. Au pied du pilier d'Orléans se trouve le caveau du génial constructeur du canal de Midi, Pierre-Paul Riquet. Le XXe siècle a vu la construction du portail nord et un inutile bras de transept réalisé au détriment d'une chapelle au XVe siècle. En résumé, cet édifice qui, à l'instar de la Sagrada Familia de Barcelone, porte le surnom de cathédrale inachevée, arbore une structure peu conventionnelle, à savoir une nef romane qui s'épanouit dans un vaste chœur gothique entouré d'un déambulatoire et de 14 chapelles rayonnantes de forme pentagonale. Nous reviendrons sur ces 14 chapelles dans notre prochaine chronique.